Le procureur de la Cour pénale internationale a demandé hier des mandats d'arrêt, a requis hier des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que des mandats d'arrêt à l'encontre des dirigeants du Hamas pour, je cite, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza. On en parle avec Emmanuel Charbit, il est avocat et notaire, il est au micro de Blaise van der Linden.
Emmanuel Charbit, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes avocat et notaire. La Cour pénale internationale cherche à obtenir des mandats d'arrêt contre le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il y a également Yoav Gallant qui est concerné et deux autres terroristes du Hamas pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le cadre des attaques du 7 octobre contre Israël et de la guerre qui s'ensuit actuellement. Alors, pour commencer, juridiquement, ça veut dire quoi tout ça?
Écoutez, la Cour internationale a la capacité par le biais de son procureur de demander des actes d'inculpation et d'arrestation à l'encontre de certaines personnes, chefs d'État, chefs militaires, qui auraient violé certaines lois de droit international, et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Benjamin Netanyahou, aujourd'hui, risque-t-il vraiment quelque chose ?
Alors, la question, elle est vraiment de regarder, en effet, ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce pourquoi on souhaite l'inculper. Comme vous le disiez, c'est et Netanyahou, Premier ministre d'Israël, et Gallant, le ministre de la Défense, essentiellement parce que les deux font partie du cabinet militaire. Est-ce qu'il risque quelque chose ? Oui, il risque en effet les deux de se voir inculpés dans le cadre d'une mesure avec un ordre d'arrestation et donc d'être dans l'incapacité ou dans l'impossibilité de pouvoir se rendre dans quelque chose comme 123 pays qui sont signataires du traité relevant de la Cour pénale internationale. Ils auraient toujours la possibilité de se rendre aux États-Unis qui n'en est pas signataire, mais ça, c'est véritablement une tâche qui est en train de se faire sur l'État d'Israël, puisqu'en plus, comme vous le disiez, vous le rappeliez en préambule, c'est et les chefs israéliens et les chefs du Hamas, c'est-à-dire que le procureur décide de mettre sur le même pied et dans la même procédure deux chefs d'État d'un pays élu démocratiquement avec une armée qui obéit aux ordres du politique et deux terroristes qui ont commis les atrocités du 7 octobre.
Justement, je reviens sur cette dernière phrase. C'est extrêmement choquant que les trois membres du Hamas qui sont terroristes, soient, comme vous l'avez dit, mis au même pied d'égalité que deux hommes élus.
Alors écoutez, si je me fais l'avocat du diable, on va dire qu'ils sont pas uniquement mis sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'il y a un procureur qui gère le dossier Israël-Gaza et qui, dans le cadre de ce dossier, a constaté des violations répétées du droit international et donc dans le cadre de cette procédure qui est une procédure collective sur Israël et Gaza, décide d'inculper et d'obtenir des ordres d'arrestation pour les chefs des deux camps. Encore une fois, je vous dis, je me fais l'avocat du diable et l'avocat de gens qui tenteraient d'avoir une position égalitaire, bien que ça ne l'est en rien, puisqu'en effet, on prend en otage le droit international qui, de toute façon, n'est qu'une arme politique. C'est en rien un système juridique qui repose sur des textes qui sont appliqués de la même manière à tous les belligérants, loin de là, malheureusement. Mais en effet, ce qui est même le plus choquant quand on regarde la volonté du procureur, c'est que dans la déclaration qu'il a faite, il décide de prendre Netanyahou, Premier ministre, et Gallant, ministre de la Défense, à propos de tous les actes commis depuis le 8 octobre. C'est-à-dire qu'on considère que depuis le 8 octobre et la réponse au massacre du 7 octobre, tout ce qui s'est passé dès le 8 octobre était déjà condamnable. Et c'est en ça que je vous dis, on prend en otage le droit international.
Y a-t-il une réelle possibilité que Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant soient condamnés et dans quel délai, si oui ?
Écoutez, je suis pas capable de vous dire s'il y a une possibilité, même si tout le monde le voit bien, Israël n'a pas le vent en poupe, on va dire, en ce qui concerne le soutien des organisations internationales quelle qu'elle soit. Après, sur le timing, il faut compter aujourd'hui un minimum d'un à deux mois pour que les ordres d'arrestation soient donnés, s'ils sont donnés par le tribunal. Il va y avoir une procédure qui va se passer, une espèce de préjugement qui va se passer toujours dans le cadre du dossier Israël-Gaza. Les différents inculpés pourront être représentés, mais là aussi, ça demande, il y a des conditions très spécifiques. C'est certains avocats qui sont spécialisés depuis plus de 10 ans dans le droit international, donc on peut pas être représenté par qui on veut. Mais donc toutes ces conditions font évidemment que on peut gagner un peu de temps, mais il faut pas croire que c'est quelque chose qu'on peut faire traîner pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Malheureusement, Netanyahou et Gallant sont véritablement vont passer un peu sous les fourches codines du droit international et de ce qu'on en fait depuis malheureusement plus de 7 mois.
Alors, vous mentionniez le fait que Israël n'a pas le vent en poupe en ce moment. Il y a eu la plainte de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Maintenant, il y a cette histoire de plainte possible contre le Premier ministre israélien. C'est un coup dur pour la seule démocratie de la région.
Évidemment, comment on peut, nous, ici en Israël, maintenant, si on regarde vraiment l'aspect géopolitique, nous ici en Israël, on a l'impression d'être seul au monde, à part quelques soutiens évidemment dans les communautés juives du monde entier, un peu aux États-Unis et à la tête de certains États. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la démocratie israélienne est considérée comme un État terroriste qui ferait la guerre de la même manière que le Hamas et qu'une autre organisation terroriste, que le Hezbollah, que l'État iranien. On est véritablement vilipendé dans le monde entier. Et là où on aurait l'impression que justement la force du peuple juif, la force du peuple d'Israël, ça a toujours été le droit, le texte, on arrive à utiliser le droit et le texte pour nous condamner et nous mettre au pilori de ce qu'il y a de pire aujourd'hui. Donc c'est une tâche qui sera indélébile. On a véritablement l'impression de payer pour toutes les dictatures du monde. C'est-à-dire que il y a qu'à voir le nombre de massacres qui a lieu de manière répétée tout autour du globe. Et c'est Israël aujourd'hui qui, après avoir subi le pire pogrom depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui est aujourd'hui au banc des accusés, comme un vulgaire État qui aurait commis des charniers comme Milosevic ou comme Poutine. D'ailleurs, malheureusement, quand on entend les débats, on a la triste façon de voir qu'on nous compare à la Russie alors que nous sommes les agressés au départ. Mais le renversement des valeurs, l'utilisation du droit international, d'une manière politisée par des organisations internationales, fait qu'aujourd'hui, on se trouve dans cette situation qui est totalement aberrante et ubuesque.
Mais il n'y a donc pas un certain optimisme face à la neutralité de ces organisations, que ce soit la Cour internationale de justice ou la Cour pénale internationale?
La question, je pense, à mon sens, n'est pas de savoir si on doit être optimiste ou pas, puisque je vous dis, on n'est pas là jugé par des chefs d'État, de démocratie, qui verraient un intérêt évident dans la dure mission que nous réalisons en tant qu'armée, en tant qu'État démocratique, visant à détruire des organisations terroristes, mais on se retrouve à devoir être jugé et à devoir se retrouver présumé coupable de déclarations qui auraient été faites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, Gallant, le ministre de la Défense, est celui qui est le plus inquiété, même avant Netanyahou, parce que justement le 8 ou le 9 octobre, il avait dit lors de déclarations publiques, en parlant de Gaza, on va leur couper l'électricité, ce qui est interdit en droit international. Ça, c'est pas ça qui est à condamner. Mais le point, c'est qu'on va enquêter et on vise à donner un ordre d'arrestation international à l'encontre d'un ministre de la Défense dont l'objectif est de mener à bien une guerre contre un État, contre une organisation terroriste, contre un État terroriste, quasiment, pour parler de Gaza, uniquement sur des déclarations, enfin au départ, sur des déclarations qu'il a faites avant même que la guerre de notre côté, la réponse israélienne, soit engagée, et en oubliant complètement que, je vais mettre de côté l'argument de l'armée la plus morale du monde, etc. La guerre, c'est la guerre. Donc il y a pas de, on va pas faire des concours de morale, mais il est évident que quand on regarde les conflits à travers le monde, 30 000 ou 20 000 ou 40 000 Gazaouis qui sont décédés et morts sous les bombes israéliennes, c'est énorme. La question n'est pas là, mais c'est rien par rapport au conflit du monde entier. Et c'est le ministre de la Défense d'un État démocratique, comme je vous le disais, qui va devoir se retrouver penaud devant un tribunal et devoir se retrouver dans l'incapacité de pouvoir voyager et faire son métier.
Emmanuel Charvy, je rappelle que vous êtes avocat et notaire. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Radio Judaïka.